Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn. Chapitre 10, l'autre guerre civile. Quatrième partie. En 1835, 50 corporations professionnelles organisèrent une action commune à Philadelphie, une grève générale des travailleurs couronnée de succès, réunissant les employés des manufactures, les relieurs, les ouvriers bijoutiers, les mineurs, les bouchers et les employés de bureau qui exigeaient la journée de 10 heures. La Pennsylvanie et d'autres États votèrent bientôt des lois sur la journée de 10 heures. Les employeurs pouvaient cependant toujours faire signer un contrat à un employé par lequel celui-ci s'engageait à faire des journées plus longues. À cette époque, la loi défendait fermement les contrats et prétendait même qu'un contrat de travail était un accord volontaire passé entre deux parties égales. Au début des années 1840, les tisserands de Philadelphie, pour la plupart des immigrés irlandais travaillant à domicile pour des patrons, se mirent en grève pour obtenir de meilleurs salaires. Ils allèrent jusqu'à s'en prendre au domicile de ceux qui refusaient de se mettre en grève, à détruire leur travail. Des hommes rassemblés par le shérif tentèrent d'arrêter plusieurs grévistes, mais ils furent mis en déroute par quelques 400 tisserands armés de fusils et de gourdins. Pourtant, un violent antagonisme religieux opposa bientôt les tisserands irlandais catholiques et les ouvriers qualifiés protestants nés aux États-Unis. En mai 1844, les deux factions s'affrontèrent violemment à Kensington, dans la banlieue de Philadelphie. Les protestants anti-immigrés détruisirent les quartiers des tisserands et s'en prirent à une église. Les politiciens de la petite bourgeoisie se mirent finalement d'accord pour intégrer les deux groupes adverses dans leurs partis respectifs. Les protestants nativistes dans le parti républicain et les irlandais dans le parti démocrate. La politique des partis et la question religieuse venaient ainsi se substituer au conflit de classe. En conséquence, nous dit David Montgomery, spécialiste des émeutes de Kensington, la classe ouvrière de Philadelphie se fragmenta, créant chez l'historien l'illusion d'une société sans conflit de classe. Mais en réalité, au XIXe siècle, ces conflits furent aussi aigus que partout ailleurs dans le monde industriel. Les immigrants irlandais, fuyant la famine due à la terrible crise de la pomme de terre, arrivaient aux États-Unis entassés dans de vieux bateaux. L'histoire de ces transports diffère peu de celle des convois qui avaient autrefois importé des cargaisons d'esclaves et devaient, plus tard, amener les Allemands, les Italiens ou les Russes. Ces immigrés irlandais, récemment débarqués, pouvaient-ils vraiment sympathiser, pauvres et méprisés comme ils l'étaient eux-mêmes, avec les esclaves noirs qui se trouvaient à l'époque de plus en plus au centre de la question politique et fournissaient le ressort de l'agitation dans le pays? Rares étaient d'ailleurs les militants de la classe ouvrière qui s'intéressait à l'époque au sort des Noirs. Ellie Moore, syndicaliste new-yorkais, élue au Congrès américain, s'élevait par exemple à la Chambre des représentants contre toute discussion sur les pétitions abolitionnistes. La haine raciale devint un substitut idéal de la frustration de classe. Une nouvelle crise économique survint en 1857. L'expansion du chemin de fer et des manufactures, l'augmentation de l'immigration, la spéculation boursière galopante, les vols, la corruption et les fraudes en tout genre provoquèrent un boom économique immédiatement suivi d'un crash. En octobre de cette année-là, 200 000 personnes se retrouvèrent sans emploi et des milliers d'immigrés récents s'entassaient dans les ports de l'Est pour repartir en Europe. Cet été-là, des émeutes éclatèrent dans les taudis new-yorkais. Une foule de 500 personnes attaqua le poste de police avec des fusils et des pierres. Il y eut des défilés de chômeurs exigeant du pain et du travail et pillant les magasins. En novembre, un groupe d'individus envahit l'hôtel de ville et en fut délogé par des soldats. Sur la force de travail globale du pays, qui s'élevait à 6 millions de personnes en 1850, il y avait 500 000 femmes, dont 300 000 domestiques et 55 000 institutrices. Parmi les 181 000 ouvrières des manufactures, la moitié travaillait dans les filatures. Elles s'organisèrent en syndicats. Les femmes firent leur première grève en 1825. Il s'agissait de l'Union des femmes tailleurs de New York qui exigeait une augmentation. En 1828, la première grève autonome des femmes travaillant dans les manufactures eut lieu à Dover, dans le New Hampshire. Quelques centaines de femmes défilèrent en brandissant des bannières et des drapeaux. Elles protestaient contre les nouveaux règlements qui prévoyaient des amendes pour les retards, interdisaient de parler sur le lieu de travail et exigeaient une pratique religieuse assidue. On les contraignit finalement à reprendre le travail sans que leurs revendications eussent été entendues. Les meneuses du mouvement furent licenciées et mises sur liste noire. À Exeter, dans le New Hampshire, les femmes ouvrières se mirent également en grève après s'être aperçues que les surveillants retardaient les horloges pour les faire travailler plus longtemps. On leur promit finalement de faire en sorte que les surveillants remettent les horloges à l'heure exacte. Le système Lowell ou Massachusetts, première ville née autour de l'industrie de la filature, doit son nom à l'influente et fortunée famille Lowell, où les jeunes ouvrières vivaient dans des dortoirs surveillés par des veuves, sembla tout d'abord être un progrès social relativement satisfaisant. Ces dortoirs pouvaient passer pour un lieu d'émancipation bénéfique par rapport au milieu familial ou aux services domestiques. Néanmoins, ils devinrent vite des sortes de prisons, avec des règles et règlements très stricts. Le souper, qui n'était servi que lorsque les jeunes filles, après s'être levées à 4h du matin, avaient travaillé jusqu'à 19h30, ne consistait bien souvent qu'en un brouet composé de pain trempé dans le bouillon. Les jeunes pensionnaires de Lowell décidèrent de réagir. Elles publièrent leur propre journal et protestèrent contre les conditions de travail dans des ateliers très faiblement éclairés, peu aérés, terriblement chaud en été et froid et humide en hiver. En 1834, une réduction des salaires entraîna la grève des ouvrières de Lowell. Elles proclamèrent à cette occasion que l'union fait la force. La menace de voir d'autres ouvrières prendre leur place l'emporta néanmoins. Elles reprirent le travail à moindre salaire et les meneuses furent, bien entendu, licenciées.
Moi, je suis les verts au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor banal à pleurer, il me semble encore les voir arriver.
les jeunes femmes, déterminées à faire mieux la prochaine fois, fondèrent une association des ouvrières. En 1836, 1500 d'entre elles se mirent en grève contre l'augmentation du prix des pensions. Les grévistes défilèrent dans les rues de Lowell en chantant. Elles tinrent bon tout un mois. Mais quand l'argent vint à manquer, elles furent expulsées des pensions où elles vivaient et la plupart d'entre elles reprirent le travail. Les militantes les plus en vue furent licenciées. Mais la résistance continuait. Herbert Gutmann rappelle que dans une usine de Lowell, on avait licencié 28 femmes pour mauvaise conduite, désobéissance, impudence, ironie ou rébellion. Pendant ce temps-là, les jeunes travailleuses nourrissaient des rêves d'air pur, de nature et de vie moins éprouvante.
Que ça m'a fait mal, moi je suis les verres au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor banal à pleurer, c'est corps contre corps qu'on les a trouvés.
L'une d'entre elles se souvient. Toute cette machinerie ne m'a jamais vraiment intéressée. Je n'y comprenais rien et ça ne m'intéressait pas. Quand venait le beau temps, au mois de juin, je m'évadais par l'esprit, loin de tout cela, et j'essayais d'oublier le bruit incessant de l'atelier. Dans le New Hampshire, 500 hommes et femmes adressèrent une pétition à la Muskeg Manufacturing Company pour protester contre l'abattage d'un orme destiné à faire place à un atelier supplémentaire. Ils jugeaient que c'était un bel arbre bénéfique. Souvenir d'une époque où seuls les chants du Pau-Rouge et le cri des aigles résonnaient sur les rives du Merrimack, au lieu du vacarme des activités industrielles lucratives. En 1835, une vingtaine d'usines se mirent en grève pour exiger la réduction de la journée de travail de 13h30 à 11h. Le règlement des salaires en argent et non en bons de paiement émis par l'entreprise et la disparition du système d'amende pour sanctionner le retard.
Et dans ce décor banal à pleurer, il y a toujours dehors la chambre à louer.
Cette grève, suivie par 1500 ouvriers de tout âge, dura 6 semaines. On fit appel à des briseurs de grève et quelques ouvriers reprirent le travail. Les grévistes obtinrent néanmoins une journée réduite à 12 heures dans la semaine et à 9 heures le samedi. En 1835 et 36, il y eut quelques 140 grèves dans l'est des États-Unis.
Dans les comptes d'apothicaire, 20 ans c'est une somme de bonheur. Mais 20 ans sans mort à la guerre, de l'autre côté du champ d'honneur. Si je connais un temps de chien, certes, c'est bien le temps de mes 20 ans. Cependant, je pleure sa perte. Il est mort, c'était le bon temps.
La crise qui suivit la panique de 1837 entraîna la formation en 1845 à Lowell de l'Association pour la réforme du travail des femmes. Elle adressa des milliers de pétitions à la législature du Massachusetts pour demander l'instauration de la journée de 10 heures. Pour finir, le Parlement de cet État décida d'ouvrir une enquête publique sur les conditions de travail, la première organisée par un quelconque corps représentatif aux États-Unis. Eliza Hemingway témoigna devant ce comité de l'atmosphère chargée de la fumée que dégageaient les lampes à huile brûlant dès avant l'aube jusqu'à bien après le coucher du soleil. Judith Payne parla de sa maladie provoquée par le travail dans les ateliers.
Il est mort, il est embelli. Il est toujours joli, le temps passé, une fois qu'ils ont cassé leur pipe. On pardonne à tous ceux qui nous ont sont offensés. Les morts sont tous des braves types.
Mais après la visite du comité dans les usines, que les entrepreneurs avaient fait nettoyer pour l'occasion, on pouvait lire dans le rapport d'enquête « Le comité que vous avez désigné revient parfaitement persuadé que l'ordre, l'agrément et l'environnement général dans et aux alentours des usines ne peuvent être améliorés par aucune suggestion et par aucun acte législatif. » Ce rapport fut dénoncé par l'Association pour la réforme du travail des femmes. Ses membres militèrent activement et avec succès pour que le président du comité fût défait aux élections suivantes. Mais rien, ou presque, ne fut fait pour améliorer les conditions de travail dans les ateliers. À la fin des années 1840, les femmes issues des campagnes de la Nouvelle-Angleterre qui travaillaient dans les usines se mirent à en partir à mesure que les immigrants irlandais prenaient leur place. Ces immigrés irlandais, récemment débarqués, pouvaient-ils vraiment sympathiser, pauvres et méprisés comme ils l'étaient eux-mêmes, avec les esclaves noirs qui se trouvaient à l'époque de plus en plus au centre de la question politique et fournissaient le ressort de l'agitation dans le pays? Rares étaient d'ailleurs les militants de la classe ouvrière qui s'intéressaient à l'époque au sort des noirs. Ellie Moore, syndicaliste new-yorkais, élu au Congrès américain, s'élevait par exemple à la Chambre des représentants contre toute discussion sur les pétitions abolitionnistes. La haine raciale devint un substitut idéal de la frustration de classe. Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn.